Merci beaucoup d'être venu ce soir. Docteur Françoise Secato, vous êtes pédiatre. Vous êtes une des premières personnalités en France à avoir monté un centre pluridisciplinaire à Tresse. Pédiatrique, bien sûr. Docteur Franck Dugravier, vous êtes pédiatre également à Bordeaux. Et docteur Anne Reynaud, vous êtes psychiatre et vous êtes surtout la créatrice de l'Institut de la parentalité. Alors, vous êtes donc les auteurs des livres qui sont les suivants, Françoise Secato, 1 à 3 ans, et puis un deuxième volume, 3 à 7 ans, aux éditions Mango, qui est vraiment un livre sur l'apprentissage dans tous les sens du terme. On y revient dans une seconde. Docteur Dugravier, vous avez raconté l'histoire de votre vie et des consultations avec les gens qui sont venus vous voir et qui vous ont eux-mêmes livré des histoires. Et docteur Reynaud, vous vous êtes vraiment penché sur la sécurité émotionnelle avec ce livre qui s'appelle La sécurité émotionnelle de l'enfant aux éditions Marabout. Docteur Secato, je vais commencer avec vous parce que votre livre est très pratique. Donc on aborde directement dans ces deux ouvrages finalement ce qui se passe à l'intérieur de la maison, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe aussi du point de vue du lien de l'enfant avec son parent. Et d'ailleurs, finalement, vous dites que l'enfant n'est pas un objet, mais un sujet. Ça pourrait résumer vos ouvrages ?
Complètement, mais ça, ça avait été dit bien avant moi, évidemment. Je dirais surtout que l'originalité de ces livres vient de la parole des enfants qui est dans ces livres. Les parents ont collecté patiemment, avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme, les paroles de leurs enfants. Et ils me les ont apportées. Et je trouvais ça magnifique parce que ça permettait de faire presque le fil rouge du livre à partir de toutes ces réflexions d'enfants et de se mettre surtout à hauteur d'enfant pour bien comprendre qu'un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Et ça a été une expérience absolument fabuleuse avec les enfants. Ce sont vraiment les héros du livre. Avec les parents qui ont rapporté toutes ces histoires. Ils ont aussi témoigné de leur quotidien dans chacun des chapitres. Il y en a 90 à peu près par livre. Et les professionnels aussi qui ont participé, toujours pour se mettre à la hauteur ou des parents ou des enfants. Et ça, c'est vraiment l'originalité de ces livres. Et je remercie, mais alors vraiment grandement, tous ceux qui ont participé, puisque ce sont des livres vraiment collectifs.
C'est vraiment comme dans votre centre pédiatrique, finalement. C'est-à-dire que tout le monde collabore, les spécialistes, les parents, les enfants. C'est intéressant parce que finalement, on peut faire un parallèle entre le principe d'expérience nécessaire à l'enfant pour grandir et finalement, l'expérience, cette exploration qui est aussi celle des parents.
Oui, c'est une belle image que vous prenez là. Effectivement, c'est à l'image un peu de nos consultations de pédiatrie. Dans une consultation de pédiatrie, les parents arrivent avec leur enfant et c'est toujours une surprise incroyable. Des histoires parfois tristes, mais le plus souvent, heureusement, joyeuses. Et un partage de cette vie entre l'enfant, le parent, le pédiatre et toujours de la surprise. C'est pour ça que ce métier est magnifique. Alors moi, je pensais que c'était le plus beau métier du monde. Mais une jeune femme m'a écrit un témoignage dans le 3 à 7 ans. Et cette jeune femme, elle est enseignante de flamenco. Et elle a dit que le plus beau métier du monde, c'était le sien. C'était de transmettre sa passion de flamenco aux petites filles. Et c'est ça qu'il y a dans ces livres. C'est tout ce partage avec les parents. Alors, je ne sais pas si j'ai le plus beau métier du monde, mais elle pense que c'est le sien. Alors, tant mieux.
Alors, cette façon de partager et de raconter des histoires, c'est vraiment un point de vue que vous avez utilisé tous les trois de façon différente, puisque vous, docteur Dugravier, vous avez émaillé votre livre en rebondissant, c'est le sentiment qu'on a à la lecture, d'une histoire à une autre, y compris la vôtre. Vous avez raconté une grande et longue histoire avec plein de petites histoires à l'intérieur. Pourquoi vous n'arriviez pas à choisir une seule histoire qui puisse être un exemple ?
Non, je n'avais pas du tout envie de choisir une seule histoire. Et contrairement à ce que vous avez dit, je n'ai pas raconté mon histoire. J'ai mis en correspondance, ce qui a toujours été mon souci de travail, ce qui fait ma vie, les éléments de ma vie, l'intérêt que j'ai pour la vie et pour les enfants et pour les familles, avec ce que je rencontrais dans mon cabinet de pédiatre. Et dans une orientation qui s'est spécifiée petit à petit depuis les années 80, entre la pédiatrie et, pardonnez-moi Anne, entre la pédiatrie et la pédopsychiatrie, dans ce qui me paraissait être la reconnaissance de la dynamique familiale et de l'importance de cette dynamique dans le développement de l'enfant.
C'est-à-dire oui, d'ailleurs, pardon, je vous interromps, je n'ai pas cité le titre de votre livre qui est « Bébés, parents et grands-parents, des rencontres inattendues » aux éditions Philippe Duval. Effectivement, votre livre raconte bien l'importance du lien intrafamilial. Et donc vous, vous expliquez que le périmètre de sécurité, il ne concerne pas que les parents et leurs enfants.
C'est plus qu'une importance, c'est une interdépendance. C'est-à-dire c'est une obligation de le considérer parce qu'on ne peut pas voir un enfant indépendamment. D'abord, il est amené par ses parents ou par un de ses parents ou par quelqu'un dans la... C'est quand même particulier à la pédiatrie et on ne vient pas seul dans un cabinet. On est avec quelqu'un d'autre qui souvent parle pour vous. Et donc, la façon aussi de redonner la parole à l'enfant dans la consultation, d'une façon ou d'une autre, et quel que soit son âge, je dirais même avec les tout petits bébés, si vous voulez, on en parlera aussi. Mais il y a un échange de parole avec un bébé nouveau-né, un échange possible, ce n'est pas à chaque fois. Mais Winnicott, il disait que les pédiatres ont la capacité de s'identifier à un nourrisson et que c'est une capacité qu'ils peuvent maintenir. Et je crois que c'est quelque chose de vrai. Il y a des moments où, dans un examen de bébé, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une espèce de communication particulière, qui est infraverbal, qui n'a pas d'ailleurs besoin des mots, comme dans beaucoup de situations affectives, et qui permet de se comprendre mutuellement. Enfin, je n'ai pas l'impression de comprendre les bébés, j'ai l'impression qu'on se comprend mutuellement. Pas tous, il y en a, on ne s'est pas compris, mais comme avec tout le monde, ça. Mais mon histoire, puisque vous y revenez, c'était que... il y a un fil conducteur dans ces histoires et qui est sur 4 thèmes ou 5 thèmes successifs qui sont, bon, l'histoire que j'ai racontée de ma propre vie. Ensuite, c'est ce que ça représente pour une femme de devenir mère, pour un homme de voir sa femme devenir mère. Je n'ai pas dit de devenir père, hein. Bien sûr que c'est en filigrane, mais c'est aussi voir sa femme devenir mère, ce que ça représente pour une femme de voir sa fille devenir mère, ce qui n'est pas une mince affaire, et ce que ça représente pour des parents de devenir grands-parents, ce qui est une... aussi une sphère aussi difficile, aussi passionnante et difficile en même temps.
Oui, c'est-à-dire que même, enfin, on le voit bien dans ce chapitre sur les grands-parents, vous vous attardez aussi, c'est très intéressant, non seulement sur le fait de devenir grand-parent, mais de rester le parent du nouveau parent.
Oui, je crois que alors, si je peux parler de grand-père, puisque je parle mieux de ce que je suis que de ce que je ne suis pas, ce que je dis d'ailleurs dans le livre.
Vous dites ça, mais dans votre livre, il y a quand même un des parents qui trouve que vous êtes maternel.
Oui, c'était une histoire particulière. Mais c'est une histoire que j'ai développée depuis, d'ailleurs, parce que cette histoire-là, elle a entièrement changé ma vie de pédiatre et ma considération de la relation de travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà un soupçon de ma féminité, si je puis dire, mais j'ai découvert qu'il y avait une féminité qui était à l'œuvre dans ce travail, qui est à l'œuvre avec les pères aussi. Certains d'entre eux le savent, certains d'entre eux le découvrent, certains en sont ulcérés. Quelques enfants des couvades, qui sont des formes particulières d'une revendication ou d'une identification, je ne sais pas. Et le sentiment maternel qui m'a été prêté, qui est une histoire très particulière quand même, peut-être on en reparlera tout à l'heure, m'a fait découvrir que, oui, je pouvais être la mère des personnes qui venaient me voir. Ce qui peut apparaître tout à fait inattendu, c'est qu'un pédiatre nous parle finalement très peu des enfants, mais beaucoup des parents. Mais c'est justement dans cette idée de dynamique familiale, de l'interdépendance du soin physique, somatique, et de la considération de la vie psychique. J'avais fait ici, d'ailleurs, il y a 15 ans, j'avais participé à un colloque où c'était sur la vie humaine. Et je posais la question de la vie de l'enfant en disant que... Ce qui était important, c'était la mise en correspondance de sa vie somatique et de sa vie psychique dès la naissance.
Ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a cette formule qu'on retient de vos ouvrages, qui est comme qu'il est très différente de devenir parent et d'avoir un enfant. Donc rien que cette question-là, elle est importante. On va y revenir. Mais après cette première présentation, docteur Reynaud, je m'adresse à vous parce que. Alors, se retrouve aussi, même à travers ces...
Je voudrais juste dire juste un tout petit complément à ce que je vous disais. Pourquoi j'ai fait ça, c'est aussi que je n'ai jamais vu ni des mères ni des pères à mon cabinet. J'ai vu des femmes et des hommes qui avaient des enfants. Et c'est, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que la personne qui vient vous voir est considérée comme une femme ou elle est considérée comme un homme. Et être père ou mère est la fonction qui l'amène là et l'enfant qui fait l'unité. Mais c'est une dimension particulière.
Alors, ben justement, en fait, ben voilà, ça tombe très bien, puisque j'allais m'adresser à vous sur cette importance. Ça, c'est vraiment un sujet qui vous est commun à tous les trois. Dans votre livre, Dr Reynaud, il est question aussi vraiment de prisme, de point de vue, puisque vos chapitres, vous les écrivez à la première personne. Quand vous êtes du point de vue de l'enfant, eh bien, c'est vraiment en écrivant avec le « je ». Vous aviez cette volonté de vous mettre à la place de chacun. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de communication ou d'entente de la position de l'autre ?
Oui, c'est toujours compliqué. On voit que les demandes qui arrivent et qui nous sont proposées, c'est à chaque fois le souhait de pouvoir mieux décoder le comportement de l'autre pour pouvoir se mettre en adéquation, pour pouvoir répondre de manière ajustée aux besoins de chacun. Effectivement, cette interdépendance dont parlait Franck est essentielle et c'est important parce qu'aujourd'hui, les connaissances actuelles nous donnent des informations sur la compréhension de ce qui se joue en termes d'interaction, de relation entre l'enfant et son environnement. Et c'est ce que nous, en termes d'approche auprès des familles, on utilise comme terme la figure d'attachement. Et elle n'est pas forcément parentale, elle peut être grand-parentale, elle peut être d'autres personnes, les éducateurs en général. Mais globalement, on a une responsabilité dans notre manière de répondre aux enfants et dans cette compréhension-là. Et aujourd'hui, on a des éléments qui nous donnent des clés, et en particulier celle de la sécurité émotionnelle que j'ai abordée.
C'est ce point précis qui a fait que vous avez créé l'Institut de la parentalité ?
Oui, c'est cette découverte petit à petit qui aujourd'hui émerge et qu'on connaît beaucoup plus à travers la connaissance de la théorie de l'attachement, des liens d'attachement, comment on se relie les uns aux autres, comment on se relie au monde, comment on se relie à soi. Et au-delà de ce qui se passe pour l'individu seul, comment il se met en relation. Et c'est des clés qu'aujourd'hui on a, qui sont très accessibles et qui vont surtout... Alors moi, je suis soucieuse d'être très pragmatique et très concrète pour que les parents puissent s'en saisir. Hein. On parle aujourd'hui de parents qui veulent être responsables, mais pour être responsable, il faut qu'ils soient informés et sensibilisés à ce dont l'enfant a besoin pour pouvoir se construire et s'épanouir et explorer et découvrir.
Vous donnez trois clés essentielles hein, de sécurité émotionnelle. Vous mettez des dessins en avant, je vous laisse les présenter, mais ce parallèle du porte-avions est en fait extraordinaire parce que c'est très simple à comprendre. Et donc, en fait, alors, je vous laisse nous présenter ces trois clés.
Les clés, c'est surtout de penser qu'effectivement, on a construit des pyramides autour des besoins de l'enfant. Et en fait, il y a une clé, si j'ai plutôt envie d'en citer une, c'est celle-là, c'est que globalement, on sait qu'on peut apporter un certain nombre de choses à l'enfant, mais s'il n'est pas, il ne ressent pas une sécurité émotionnelle à l'intérieur de lui, il ne va pas pouvoir se saisir de l'ensemble des besoins auxquels on va répondre. Donc, c'est, pour certains auteurs, c'est comme un prérequis. Sans cette sécurité, il ne peut pas s'épanouir et il ne peut pas grandir. Et on voit comment c'est très actuel aujourd'hui. C'est-à-dire que notre sécurité, elle a été mise à mal par cette crise sanitaire et en plus par des problèmes économiques. Et on voit comment ça nous a totalement déstabilisés, qu'on était en besoin de cohérence et de prévisibilité, qu'on n'a pas toujours eu, et ça nous a beaucoup désorganisés. Et quand on ramène ça à l'enfant, ça peut nous donner réellement des manières de se positionner avec l'enfant pour qu'on puisse lui donner ce sentiment de sécurité émotionnelle dont il a besoin pour grandir, et surtout dans les premières années, sur ses 1000 premiers jours, mais pas que, c'est actif tout au long de notre vie. Mais globalement, cette période est très, très, très importante. Alors, pour revenir à l'histoire du porte-avions, globalement, effectivement, il y a Anil, qui est mon illustrateur, qui a permis qu'on mette ça en œuvre. C'est d'expliquer que le parent ou la figure d'attachement, c'est un porte-avions et que l'enfant, c'est un petit avion. Et que globalement, le petit avion, il a pour quand même objectif de pouvoir décoller, aller explorer le monde et pouvoir revenir en cas de danger sur le pont du porte-avions. Mais parfois, le pont du porte-avions n'est pas disponible. D'autres petits avions sont là, où il est occupé, et il est dans une disponibilité psychique, et le petit avion va devoir s'adapter à la disponibilité du porte-avions. Et plus le porte-avions va avoir conscience de cette fonction de porte-avions, plus il va pouvoir s'en saisir. Donc, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'expliquer toute la théorie de l'attachement et utiliser une terminologie qui est parfois plus complexe. Quand on parle du porte-avions aux parents, tout de suite, ils comprennent l'image. C'est pas le paquebot, hein, c'est le porte-avions. On peut venir se poser sur le pont du porte-avions. Et on voit qu'aujourd'hui, parfois, l'enfant n'a pas de porte-avions ou il a une flottille de porte-avions et il ne sait pas forcément comment s'y poser. Et ça peut expliquer une anxiété, en tout cas quelque chose qui vient mobiliser sa sécurité et du coup son comportement. Donc une clé de décodage de ses comportements.
Alors sur votre site internet, j'ai vu que vous mettiez en place des stages qui permettent de développer le sentiment de compétence parentale, alors qui est une question que je retrouve dans vos livres. Est-ce qu'aujourd'hui les parents, en fait finalement, sont trop en quête de performance ?
J'entends une maman, Eva, qui parlait de ses deux petites filles et qui me disait « Ah, cette mission-là, en parlant de sa mission de mère, il ne faut pas que je la rate. » Oui, effectivement, il y a une exigence aujourd'hui qui est nouvelle. Autrefois, il fallait que les parents amènent leurs enfants à la vie d'adulte. Il fallait que les enfants survivent. Ça, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, heureusement, la plupart des enfants que nous mettons au monde vont survivre. Ensuite, il y a eu la période « il faut que mes enfants aient une éducation pour pouvoir avoir un bon travail et contribuer à la société ». Ça, c'est un peu ma génération, peut-être celle de Franck, enfin bref, c'est notre génération. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. Les jeunes parents que je vois, ils ont d'autres ambitions pour leurs enfants. Il faut que leurs enfants soient heureux, qu'ils trouvent le bonheur. Vous voyez, on est dans une autre exigence. Et c'est une exigence terrible. Parce que est-ce qu'on va être capable, en tant que jeune parent, de savoir tout ce qu'il faut savoir pour amener notre enfant au bonheur, au fait d'être heureux, d'être libre, de s'épanouir complètement? Le challenge est très, très fort pour les parents.
Trop, ça veut dire en fait qu'il y a cette question qui fait qu'au bout d'un moment, la souffrance, elle vient aussi du fait d'avoir trop d'informations, trop d'exigences. Il est question de ça ? Dans votre cabinet, docteur Dugravier.
Je reviendrai un peu plus tôt dans l'histoire. C'est-à-dire que... Alors, la compétence des parents, c'est d'abord pouvoir se retrouver parent alors qu'on ne l'a jamais été, avec un enfant nouveau-né.
Et devoir... Je veux dire compétence, pardon, je vous coupe. En fait, c'est...
Non, c'est vous qui avez dit compétence, j'ai repris ce
mot. Non, coup, en fait, c'est parce que sur le site internet de l'Institut de la parentalité, oui, il y a le mot compétence. Et moi, ce mot m'intrigue, m'interroge. Donc, je vous laisserai y répondre, bien sûr.
Moi, je préférerais le mot de maladresse, figurez-vous. C'est-à-dire que oui.
C'est ça, est-ce qu'on doit envisager la famille comme un management ?
C'est être témoin de la maladresse généreuse, je dirais, oui, des jeunes parents. Enfin, quand je dis jeunes parents, je veux dire nouveaux parents, parce qu'ils viennent. En fait, on peut nous les aider à mettre le pied à l'étrier par une habitude de travail. Et parce qu'on est aussi moins dans un système passionnel qu'eux, puisque ce n'est pas notre enfant. Donc, on peut être plus organisé, plus théorique. Et je vais vous donner un petit exemple. Quand les bébés sont tout petits, les parents ils savent pas du tout comment les toucher, comment les tourner. Et moi, j'ai toujours essayé de leur apprendre, non pas à les tourner, mais à les faire se tourner, et non pas à les asseoir, mais à les faire s'asseoir. C'est-à-dire de leur montrer un geste qu'eux-mêmes peuvent utiliser ensuite, dont ils s'emparent avec moi dans le cabinet pendant l'examen, et qui change quelque chose de la dimension relationnelle. D'abord, ils s'en emparent, je la leur donne, enfin, je la leur laisse, je m'empare de rien. Parfois, je leur fais faire le geste eux-mêmes et ils l'apprennent comme ça et ils s'aperçoivent qu'ils savent faire très bien tout seul. Ce qui m'amène à dire que la sécurité émotionnelle, oui, mais je pense que dans les tout premiers jours de la vie ou toutes premières semaines, on ne va pas les chiffrer, cette sécurité émotionnelle, elle est en jeu immédiatement et qu'elle est en partie liée à ce que aux difficultés que peuvent rencontrer les parents, père ou mère, et notamment à ce qui peut s'apparenter à la dépression postnatale ou en tout cas aux difficultés d'ajustement, on va dire, et que c'est notre travail à nous de les repérer, ces difficultés, et d'amener petit à petit à une prise de confiance en soi. Voilà, c'est ça que je dirais, qui permet probablement d'éviter pour la suite. Vous savez, Winnicott, je m'excuse de le redire ça aussi, mais il avait dit la fonction essentielle du pédiatre, c'est de prévenir la maladie mentale. Si seulement il le savait. Alors, maladie mentale, on peut balayer le terme, mais c'est un mot de l'époque. Mais c'est
Winnicott qui était... En
fait, Winnicott qui était un psychanalyste, un
pédiatre. Qui a découvert, qui a en tout cas élaboré les premières thèses sur l'attachement.
Bien sûr, oui. Après Bowlby, oui.
Alors, docteur Reynaud, pourquoi ce choix de mot compétence ?
Parce que ça fait partie aujourd'hui de la terminologie qu'on utilise et puis que ça fait partie aussi des critères d'évaluation, parce que c'est important de pouvoir accompagner la parentalité. Mais il y a du coup des échelles d'évaluation. Mais au-delà des compétences, c'est le sentiment de compétence. Oui. Et ça, c'est important, parce que ce sentiment, ça revient à ce que disait Franck sur la confiance et ce que vous introduisiez sur la performance. Aujourd'hui, oui, on est dans un culte de la performance dans notre société, de la compétition. Et la parentalité fait partie de ces mêmes enjeux. On transpose ce qu'on attend de nous sur un plan professionnel, souvent sur un plan personnel, avec cette recherche de développement personnel harmonieux et de bonheur. Mais globalement, on l'a transposé sur ce champ-là et ça rend la tâche parentale aujourd'hui beaucoup plus exigeante, beaucoup plus complexe, avec le sentiment, nous, on a des parents qui disent bah, « mon bébé, il pleure, donc il est malheureux. S'il est malheureux, c'est que je ne fais pas ce qu'il faut. » Alors qu'un bébé pleure. Un bébé pleure. Et ce n'est pas parce que son parent l'a rendu malheureux. Il pleure. Donc, on voit effectivement qu'il y a des attendus, il y a des objectifs qui font que c'est l'enfant qui va définir le parent, alors qu'avant, ce n'était pas dans ce sens-là. Et ça fait porter à l'enfant une charge qui ne lui incombe pas forcément. Donc, ce culte de la performance, il fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'ouvrages sur ce domaine-là. On voit beaucoup fleurir de champs autour de la parentalité de toute nature. Et que nous, on voit arriver à l'Institut des gens qui sont perdus, parce que beaucoup d'infos ont finalement sont venus interférer sur leur manière de penser les choses. Alors, ils essayent de faire un espèce de mixte entre eux, des valeurs plus ancestrales qu'ils veulent dépasser, mais qui ne peuvent pas trahir totalement, et puis ce qu'ils ont envie vraiment pour leur enfant. C'est effectivement un sentiment qui est souvent culpabilisant, et c'est important de pouvoir travailler sur ce sentiment de compétence parentale. Et on a des outils aujourd'hui, donc c'est important de pouvoir les mettre en application.
J'ai envie de rebondir là-dessus. Quand j'ai eu le contrat de Mango pour écrire un livre sur les 1-3 ans, mon fils aîné, alors papa de 2 enfants, m'a dit « Oh là là, encore un livre qui va nous culpabiliser ». Et cela m'a interrogée beaucoup. Et je me suis dit « Oh, ça veut dire que les parents, avec toute cette littérature, ne s'en sentent pas à la hauteur ». C'est de là qu'est partie l'idée de faire participer les parents et que les parents puissent témoigner de leur quotidien et que ça soit un livre où les parents puissent piocher à la fois des idées à partir de tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur le développement des enfants, c'est très important parce qu'on a fait énormément de connaissances ces dernières décennies, et en même temps d'être raccroché, comme disait Anne, au côté pratique, comment ça se passe dans les familles. Et je me souviens d'une mère qui dit « Bon, là, c'était compliqué. J'ai travaillé, mes enfants étaient à l'école, je suis en retard, mon linge n'est pas repassé. Bon, ce soir, on va manger des pâtes avec du jambon blanc. » Les enfants étaient ravis. Et cette mère dit, voilà, eh ben, je leur ai donné des pâtes avec du jambon blanc. Ils ont le ventre plein, ils vont au lit avec le ventre plein. J'ai fait mon job de maman, c'est super. Et c'est repartir sur le côté bon sens et pratique, et ce qui se passe dans les familles, et les réflexions des enfants, et comment les enfants perçoivent tout cela. Ça m'a semblé très important pour communiquer aux parents à la fois toutes ces connaissances que nous avons, et sans le côté culpabilisant, je n'y arriverai jamais.
Ce qui m'a frappé dans vos 3 ouvrages, c'est que vous citez tous les 3 à un moment donné ou à un autre Bowlby et Winnicott, c'est-à-dire que finalement, depuis ces recherches sur le principe de l'attachement, ben, on en est resté là, entre guillemets, c'est-à-dire ces recherches étaient suffisamment fortes pour qu'encore aujourd'hui, on puisse s'y référer. Et en même temps, depuis, il y a eu beaucoup de nouvelles recherches, finalement avec des éléments qui viennent compléter ces recherches autour, dont un élément qui lui aussi est présent dans vos ouvrages, c'est l'importance du mot. Notamment, alors, la pratique narrative, vous en parlez beaucoup, docteur Secato. Bien sûr, à travers votre histoire et les histoires que vous citez dans votre livre, docteur Dugravier, il est vraiment beaucoup question de mots ou de silence.
Oui, quand je reviens sur la notion de maladresse de ce que je disais tout à l'heure, parce que ça revient, enfin, c'est un peu une réponse à ce que vous me dites là, mais la maladresse, pour moi, c'est un gage d'invention. C'est-à-dire que la relation avec un bébé, ça s'invente et ça ne sera pas la même que celle qu'on a eue avec sa mère, même si elle peut ressembler, même si on peut s'en inspirer, même s'il peut y avoir des similitudes. Mais on voit très souvent des jeunes mères désespérées d'avoir l'impression de ne pas savoir faire quelque chose. Ce n'est pas en leur expliquant comment on fait qu'on va les tirer d'affaire, c'est peut-être en faisant avec elles. Il faut toujours revenir au basique des choses, c'est-à-dire commencer par l'examen, toucher les bébés, faire toucher les bébés. Et à partir de là, on peut parler d'autre chose. Mais dans notre métier de pédiatre, toucher, c'est la base de notre crédibilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je me lançais dans des explications psychologiques ou psychopathologiques, et même si j'avais parfaitement raison, je serais inaudible, dans la mesure où je n'aurais pas fait un travail préalable, et où, d'autre part, il n'est pas question de dévoiler aux gens quelque chose, il est question de les amener, eux, à faire le constat d'une situation. On ne dit pas ce qu'on a perçu, parce que même si c'est vrai, ça sera toujours malvenu et ça rendra la situation caduque. Donc c'est amené à une prise de conscience des choses et donc à une demande exprimée, par exemple.
Alors vous dites que vous êtes devenu pédiatre aussi, enfin c'est très très intéressant dans votre livre, vous revenez sur le cadeau que votre père a reçu de la guerre. Alors ça c'est tout à fait, c'est pour vous docteur Secato, en pratique narrative, c'est-à-dire comment interpréter un mot de mille façons différentes?
Bah ça dans mon livre, ça, vous interprétez d'une façon différente, vous en trouvez, j'ai mis plein de phrases de chansons déjà. Le cadeau de la guerre, c'était une expression, c'était une tuberculose qui l'a fait... qui nous a fait avoir un très joli cadeau aussi, puisque ça l'a rendu absent de la maison pendant presque 2 ans. Il est parti un 20 décembre, je crois, et puis il n'est plus revenu pendant 2 ans, parce qu'il y a eu la visite médicale, à l'époque ça se faisait comme ça, la radiographie, 2 cavernes, parti, et nous, rien.
Et vous, le mot cadeau?
Bien sûr.
En étant un enfant?
Bien sûr. Et alors, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment... où les enfants, ils voient personne disparaître, si, ils voient des gens mourir quand même, où ils entendent dire qu'il y a des gens qui meurent, et où les choses ne sont pas dites, ou peu dites. Et je ne peux pas imaginer une seconde que les enfants de 5, 6, 7 ans en ce moment, qui ne disent rien sur ce qu'ils entendent à la télévision, ne pensent pas à la mort comme une possibilité, une éventualité, un risque pour leurs parents, pour leurs grands-parents. Et c'est exactement la même chose. Je me souviens que très probablement, j'étais assez content que mon père soit pas là, parce que ça me laissait la place auprès de ma mère. J'ai pu aller très souvent dans son lit. J'avais souvent mal au ventre pour que ça me soit rendu possible. Et que je n'ai pas été probablement très content quand il est revenu, puisque autant ma mémoire est très importante et autant je me souviens de tout, j'ai oublié son retour. Donc c'est curieux. Mais alors après, ce qui se met en parallèle dans mon livre, c'est un autre cadeau, c'est qu'il y a eu 2 départs. Il y a eu le départ en sanatorium. Et puis après, il y a eu le départ de sa mort, qui m'a été annoncé pendant que je préparais l'internat, un soir, en me disant « Papa est mort ». J'avais 21 ans, 22 ans, et c'était dans ma vie, ces 2 choses se sont mises en parallèle, en permanence, en correspondance. Ça m'a beaucoup aidé dans la compréhension de ce qu'était un enfant, de même que je dis à un moment que quand on devient grand-père, on redevient aussi petit enfant. Et que la première fois que j'ai eu un petit-fils, qui ressemblait comme une reproduction exacte à mon fils, son père, j'ai eu l'impression d'un seul coup que mes 2 grands-pères étaient à côté de moi, étaient en train de me parler. Non pas pour m'apprendre quelque chose, mais peut-être pour m'accompagner dans un chemin tout nouveau, un peu difficile. Parce que je ne sais pas si on parlera de ça ou s'il y aura des questions là-dessus. Mais devenir grand-parent est une épreuve très particulière.
Alors, on voit bien, dans vos ouvrages, il est question des mots, de l'importance des mots, que ce soit dans vos accompagnements auprès des parents, dans l'écoute des mots des enfants aussi, que ce soit dans vos livres, mais aussi dans vos cabinets, dans votre prestation. Mais il est quand même aussi beaucoup, beaucoup question de temps. En fait, il faut du temps. Alors, ce qui est vraiment frappant dans vos ouvrages, c'est quand même cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, les gens n'ont plus le temps, tout simplement?
Moi, j'ai l'impression que j'ai eu plusieurs temps dans ma vie. Il y a eu le temps de l'école, de l'université, où on apprend et où on rend ce qu'on a appris. Et puis après, il y a le temps de l'expérience professionnelle, où là, j'ai fait un parcours, comme vous le disiez, d'approche narrative, et qui était absolument passionnant, et qui m'a appris à historiser ce qui se passait. Et qui m'a dit qu'une vérité, ce n'est pas forcément une vérité, c'est la vérité qu'on a soi, ou la vérité que porte le parent qui est là, ou l'enfant qui est là. Et il y a une 3e étape, je suis en train de passer en DU, on appelle ça un diplôme universitaire d'accompagnement de la parentalité, dans lequel d'ailleurs intervient Anne. Et dans ce parcours-là, ce que l'on nous apprend, c'est non plus, comme je disais tout à l'heure, de restituer, ni finalement d'écouter, de faire parler, mais là, c'est surtout d'écouter et de ressentir. Et je trouve que ce temps, vous parlez de temps, oui, bien sûr, il faut du temps, mais il faut aussi de la pratique. Et la pratique, ça permet de faire que le temps va être là. Pour ce qui est nécessaire. Et quand j'ai une maman en face de moi ou un papa en face de moi ou voilà un homme, une femme, comme tu dirais, Franck, et des enfants, eh bien, cette formation qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, avec, pareil, comme on disait tout à l'heure, toutes les connaissances accumulées, nous permet d'avoir cette qualité d'écoute, cette qualité de partage avec des enfants et leurs parents, qui est possible, qui est rendu possible par toutes ces connaissances et ces formations que nous avons. Et beaucoup de professionnels, c'est ce que j'avais envie de dire aussi, c'est-à-dire que parfois les parents sont un peu perdus, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils peuvent eux-mêmes se renseigner, bien sûr, il faut qu'ils fassent le tri un petit peu dans tout ce qui existe, et ils peuvent aussi se faire accompagner, c'est très important. Aujourd'hui, les personnes sont formées de plus en plus à l'écoute, à l'accompagnement. Il faut encore développer tous ces aspects-là. Mais ça, c'est très important. Il faut que les parents sachent qu'ils ne sont pas seuls. Anne prend l'exemple, l'image magnifique. Un enfant, ça ne s'élève pas seul. C'est l'image du village africain. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on a ça. Il faut vraiment s'en saisir et que les parents s'en saisissent. C'est vraiment urgent, même, je dirais.
Comment vous avez rencontré la pratique narrative ?
Ah bah alors là, c'était tout à fait par hasard. Mon mari fait des formations pour dirigeants d'entreprise et j'ai rencontré à cette occasion-là Pierre Blanc-Sanoun, qui était un des représentants de la pratique narrative en France. C'était il y a une dizaine d'années et il intervenait auprès d'un public de dirigeants d'entreprise. Et quand je l'ai entendu parler, j'ai dit « mais ça, il faut le faire en pédiatrie ». Et pour nous, dans notre métier, c'est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel ? C'est d'enlever les étiquettes. Par exemple, je vois un parent qui arrive et qui dit « oh, vous savez, mon enfant, il est très feignant ». Et le bébé, il a 3 semaines. Comment un bébé de 3 semaines peut-il être feignant ? Mais on comprend bien que si on dit ça de ce bébé, il va être quelque part coloré par cette parole du parent. Ce qu'on dit à un enfant, ou non, ce qu'on dit d'un enfant devant un enfant, on imagine bien que ça va impacter l'enfant, ça va changer sa vision de lui-même et donc du monde. C'est ça la pratique narrative, c'est mettre des histoires préférées sur notre vie et sur les autres.
Et alors, est-ce qu'on peut changer en cours de route ? Est-ce que ça se répare ?
Bien sûr, tant qu'on est vivant, tant qu'on n'est pas au cimetière.
Docteur Reynaud, est-ce que le mot sécurité aussi, on parlait tout à l'heure du mot performance, compétence, est-ce que le mot sécurité n'est pas devenu un mot très important dans notre société, trop ?
Alors, trop, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas par hasard qu'il soit aussi prononcé aussi souvent. Moi, je l'écoute, du coup, j'ai cette attention-là et il est quasiment dans toutes les phrases, dans toutes les approches. Aujourd'hui, oui, on est dans cette quête de la sécurité. Il y a des agents de sécurité. On cherche la sécurité sanitaire. Mais moi, je fais lien avec ce qu'on comprend du fonctionnement d'un individu et de se dire que la sécurité, c'est le socle sur lequel il va se construire. Donc, c'est assez normal que finalement, on soit dans cette quête-là ou dans cette recherche-là.
Elle est effrayante, cette recherche, pour un enfant ? Ou est-ce à nouveau une pratique narrative qui fait que c'est finalement un prisme ? Parce que l'enfant, quoi qu'il arrive, reste extrêmement adaptable, finalement ?
Docteur Dugravier. Oui, moi, je crois beaucoup à la plasticité cérébrale, à la plasticité psychique des enfants. C'est-à-dire que je crois que là où nous, on voit un drame, ils peuvent aussi voir un drame et qu'ils peuvent en sortir aussi vite qu'ils y sont entrés, alors que nous, on va y rester, parce que ça nous amène à d'autres considérations. On voit des enfants dans un désarroi très important pour des choses qui peuvent être banales ou qui peuvent être importantes. Je ne parle pas de deuil ou de sujet majeur. Je parle d'une réaction. Et puis tout d'un coup, ils en sortent, alors que nous, si on était dans la même situation, on serait coincé dans une espèce d'impasse, si vous voulez. Ce qui me paraît important, c'est chez les enfants, c'est de cultiver la curiosité. C'est-à-dire tout ce qui fait une ouverture sur la vie, la nouveauté. Un jour, j'ai dit à une petite fille, une de mes petites filles, elle avait 3 ans. Je l'accompagnais à l'école et puis je lui dis, tu sais ce que j'aime bien, Pénélope, chez toi ? Non, c'est quoi ? Je dis, c'est que tu es curieuse. Alors elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire, curieuse ? Je lui dis, mais ça veut dire ça. Ça veut dire, quand tu ne sais pas, tu demandes. Et c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé pendant très longtemps. Et un jour, j'étais en Iran en voyage et il y a un monsieur qui m'aborde dans une mosquée. Il parlait très bien français, 25 ans. Et il me dit, voilà, monsieur, vous êtes français, je voudrais demander une chose. Qu'est-ce qui fait qu'on reste jeune ? Alors je réfléchis et j'ai dit, je crois que c'est la curiosité. Ah non, 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 c'est l'insouciance, il me dit. Il me dit, non, l'insouciance, c'est peut-être un apanage de la jeunesse, mais ça ne peut pas être une vertu de la vieillesse. Hein, si on continue à être insouciant, on passe à côté des choses. Non, la curiosité, le persistance d'une ouverture. Voilà.
Pourtant, il y a une forme d'insouciance dans les grands-parents dont vous parlez dans votre livre, qui ont cette fraîcheur qui fait qu'ils ont le temps d'entendre et de partager des rituels qui vont être éminemment constructifs, non ?
Ce n'est pas une insouciance, c'est une attention. Au nom de ce que beaucoup de grands-parents disent, il faut que je voie mes petits-enfants. En ce moment, c'est particulièrement criant. Et moi, je crois que fondamentalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut que nos petits-enfants nous voient. que ce n'est pas nous qui devons les voir, c'est eux qui doivent nous voir, parce qu'ils nous regardent de côté, ils nous regardent de travers. Ce qu'ils apprennent le plus de nous, c'est quand on ne sait pas qu'ils nous regardent.
Justement, on reçoit à l'instant une question, puisque nous sommes en direct. Mais je n'ai pas le prénom de la personne qui a écrit ce message. Je vais devenir grand-mère prochainement. Comment trouver ma place dans cette nouvelle configuration familiale?
Alors déjà, en étant bien conscient de sa place, c'est-à-dire cette dame n'est plus la maman, ça ne sera pas la maman de son petit enfant, ça sera bien la grand-mère, c'est bien garder sa place. Moi, il m'est arrivé une aventure, une personne téléphone, elle me dit, voilà, je suis la maman du petit, Arthur, par exemple, je ne me souviens plus du prénom, et elle pose des questions. Et à un moment donné, j'ai eu un doute, je lui dis, mais vous êtes la maman ou vous êtes la grand-mère? Ah, elle me dit, c'était pour vous faire gagner du temps. En fait, je suis la grand-mère. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable pour l'enfant, pour la grand-mère et pour la maman. Déjà, de bien garder sa place de grand-mère, je dirais, et de bien signifier, je suis la grand-mère. Toi, petit enfant, tu as un papa, une maman, et moi, je suis la grand-mère.
Moi, je répondrai à cette personne que le simple fait qu'elle pose la question prouve qu'elle a déjà quasiment trouvé sa place. Donc, je n'ai pas d'inquiétude pour ça. Par contre, ça sera peut-être un peu douloureux pour elle parce qu'on est obligé de faire le deuil d'un certain nombre de choses.
Par exemple,
alors bon, quand on commence à être grand-parent, on est obligé de se poser la question de la durée de la vie, du rapport avec nos enfants. Quand on a un premier petit enfant, on est tout fringant, fringante. C'est facile. Je crois que j'en parle dans mon livre. J'étais un jour dans le train, j'allais à Paris, puis il y avait une femme en face de moi qui devait avoir, je sais pas, 50, entre 50 et 55 ans. Puis je la sentais, qui était agitée comme une puce. Elle avait plein de cadeaux de magasins de jouets. Et avant d'arriver à Paris, quand même, je lui ai dit, mais vous allez voir vos petits-enfants? Ah oui, 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 oui. Quand j'y vais comme une amoureuse, elle me dit. J'avais trouvé cette phrase extraordinaire. Je m'étais demandé si je pourrais dire la même chose si on me posait la question. Je crois pas. Il y a quand même quelque chose de passionnel. Mais dire j'y vais comme une amoureuse, elle était folle de joie d'aller voir ce petit garçon. Je crois que c'était un petit nouveau-né. Alors quand on a un petit enfant pour la première fois, trouver sa place, c'est pas si facile. Pour ce que je dirais, moi, c'est que être grand-père, c'est aussi être père à nouveau d'une façon différente, pas de l'enfant. C'est négocier une nouvelle relation avec son enfant devenu parent. Donc c'est forcément celle d'un effacement. C'est pour ça que j'ai dit des deuils. Il y a aussi un effacement, une façon d'attendre, de ne pas s'imposer, de ne pas imposer ce qu'on a su. Ce qu'on a fait n'a pas forcément marché. Ou même si ça a marché, c'est plus d'actualité. Donc c'est nos enfants devenus parents qui vont trouver maintenant un nouveau fonctionnement avec celui qui est leur enfant. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais que notre tâche, ça va être, quand ça sera l'heure venue, d'ouvrir des horizons à nos petits-enfants. C'est-à-dire de pouvoir répondre à des questions qu'ils ne poseraient pas à quelqu'un d'autre. Un jour, ma belle-fille m'a téléphoné, une de mes belles-filles me dit, voilà, Simon, on va vous poser une question, il était 9h du soir, je vous le passe. Il avait 5-6 ans, je crois, et il me dit, voilà, grand-père, quand on est mort, qu'est-ce qu'elles deviennent les petites graines qu'on a dans le zizi?
C'est un extrait dans votre livre.
Alors, je lui ai répondu que, tant qu'on était vivant, elles servaient à faire des bébés, et que après, quand on était mort, on ne pouvait plus s'en servir, mais que d'autres gens, que les bébés qu'on avait fait, deviendraient des grandes personnes, qui à leur tour peut-être feraient des bébés. Voilà, c'était des questions. Il y a des questions qu'on peut poser à ses grands-parents, et c'est arrivé à plusieurs reprises, directement ou indirectement, les petits-enfants les posent, ils ne vont pas vous poser toujours, surtout sur votre propre mort, ils ne vont pas vous les poser directement, mais ils se renseignent comme ça.
Est-ce que vous pourriez faire un lien entre le fait d'être pédiatre, dont vous dites, être pédiatre, c'est, vous écrivez, finalement rester dans l'enfance sans nostalgie? Est-ce que ça pourrait être la même définition d'être un grand-père?
Non, je ne dirais pas que c'est rester dans l'enfance et une nostalgie. Je dirais que l'enfance sert comme un langage particulier. Je n'ai pas de nostalgie de mon enfance du tout.
Vous dites bien sans nostalgie.
Ah, sans nostalgie, c'est ça, oui, j'avais compris.
Vous dites rester dans l'enfance sans nostalgie.
Oui, c'est ça. C'est rester dans l'enfance comme une forme de communication. Mais pas de nostalgie de l'enfance, non. Et au contraire, l'enfant que j'ai été, il me sert maintenant, mais
Pour répondre à sa question, il y a une association des grands-parents européens qui est très aidante pour les grands-parents.
Merci beaucoup, docteur Secato. Docteur Reynaud, Cécile nous demande bonjour à tous. J'ai eu la chance d'avoir reçu le soutien du docteur Anne Reynaud juste après la naissance de mon fils, 3 ans après. Je la remercie encore pour son accompagnement qui m'a beaucoup aidée dans cette période de grande vulnérabilité. Je suis devenue une maman très épanouie. Dans votre livre, vous prenez le temps de vous attacher justement sur les moments d'émotion fortes, notamment quand on devient une maman. Alors, ce chapitre est vraiment passionnant puisque vous dites, mais finalement, la grossesse, c'est l'occasion idéale de déborder.
C'est ça, c'est les premiers pas vers la parentalité. On en oublie souvent cette période-là. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de grossesse physique et pas assez de grossesse psychique ou psychologique. Pourtant, il y a vraiment une transformation, il y a un état psychique très spécifique. Et de pouvoir en parler et le partager permet aux parents de se déculpabiliser, ce que disait Françoise, de ben, voilà, cette maman qui a envie de fraises, de chocolat, à n'importe quelle heure, qui ne comprend pas les propos de son compagnon et ce décalage. Et c'est vraiment des travaux intéressants sur ce qu'on appelle la transparence psychique et puis la transformation vers ce qu'on appelle aussi la préoccupation maternelle primaire. Tout ça, ça se met à l'œuvre et ça permet au porte-avions de préparer sa fonction de porte-avions. Et c'est des moments qu'on le sait aujourd'hui extrêmement fragilisés parce que, pour faire le relais sur la question précédente de la place du grand-parent, la place du grand-parent, elle est, si on reprend l'image du porte-avions, souvent c'est le porte-avions du porte-avions. Et c'est important qu'il y ait un porte-avions du porte-avions. Nous, en termes de théorie de l'attachement, on appelle ça caring for the caregiver, mais je prends soin de celui qui prend soin. Alors après, il y a la place qui est vis-à-vis de l'enfant et du petit, où ça va être effectivement toute cette dimension de l'exploration qui peut être soutenue par le grand-parent, mais de prendre soin de celui qui prend soin et de préparer celui qui va prendre soin. On sait aujourd'hui, Franck en parlait, que les états dépressifs du postpartum touchent quand même environ 20% des femmes et 10% des papas. Et ça va avoir un impact sur la disponibilité. Et ce n'est pas honteux de traverser cette étape-là. Il faut pouvoir en parler. Ça reste encore compliqué et ça passe souvent par l'enfant parce que lui, il va nous témoigner de ses difficultés de trouver aussi finalement un équilibre au milieu de cette famille.
Vous voyez des grands-parents ?
J'en vois quelques-uns. On en voit quelques-uns qui se questionnent effectivement d'être le plus ajusté à leurs petits-enfants. Oui, oui, je les vois, ou je vois surtout dans les états dépressifs du postpartum avec des mamans qui viennent avec leur maman, qui est leur porte-avions, et elles ont besoin de ce porte-avions. Et c'est difficile parfois pour le compagnon parce qu'il se sent impuissant par rapport à ce qui peut se passer, mais on sait très bien que les figures d'attachement archaïques, les premières qui ont soutenu ce petit avion, vont être resollicitées au moment où les émotions sont très fortes. Et les émotions sont très fortes lors de l'accès à la parentalité.
Julia nous demande, que pensez-vous de l'organisation de l'éducation nationale pour le confort psychologique et physique de nos enfants avec leur développement pédagogique dans la situation actuelle ? Qui se lance ?
Actuelle, c'est-à-dire
actuelle, oui, c'est vraiment...
par rapport au Covid ?
Oui.
Bon, moi, c'est extrêmement simple. Je pense que le retour à l'école est tout à fait souhaitable, d'une part parce qu'il n'y a pas de danger pour les enfants. Peut-être un danger pour leurs parents aux sorties et aux entrées d'école s'ils ne sont pas attentifs aux mesures de prévention, aux mesures barrières, que les enfants ne risquent pas grand-chose. Ils représentent, avant 20 ans, 2% des formes de contamination et quasiment pas de formes graves. Toutes celles qui ont été décrites comme graves ont été soit, on a dit que c'était pas exactement ça, les Kawasaki et tout ça, faut pas s'inquiéter pour ça. Il y a eu 2 enfants qui sont morts, un en Angleterre, un en France, qui étaient 2 enfants qui avaient des comorbidités importantes. Donc le risque sanitaire n'existe pas. En revanche, je pense que même, il y a eu 2 modes de confinement. Il y a eu le confinement décrit au début dans les journaux, qui était absolument odieux, des gens qui retrouvaient les ombres floues des chevaux dans la brume de la Normandie, parce qu'ils avaient une maison de campagne qui leur permettait. Ça, c'était quelques élus, si je puis dire, sociaux. Et puis, il y a eu le confinement difficile des quartiers comme la Seine-Saint-Denis, comme Clichy, comme Lormont, où vivre dans une cité avec 4 personnes ou 5 personnes dans 50 mètres carrés, pas pouvoir sortir, c'est absolument insupportable. Et pour les enfants en particulier, on ne pouvait pas rester comme ça. Donc la rescolarisation, même si elle est partielle, elle n'a pas pour but de rattraper le retard scolaire. Du côté de la performance, c'est important de le dire, mais elle a pour but de rendre une vie sociale indépendamment de la régression familiale, si je puis dire, qui a du bon, mais qui n'est pas forcément la seule chose.
Et vous avez été très sollicités tous les trois pendant cette période.
Alors oui, nous, dans notre centre de pédiatrie, tous les jours, les questions se posent. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'enseignants qui nous confient leurs enfants. Et j'ai été chaque fois vraiment extrêmement rassurée par ce que me disaient ces enseignants ou les directeurs d'école primaire et élémentaire. Entre ce qu'on dit dans les médias, de la façon dont les enfants sont reçus et dont on voit en tout cas ici dans la région, comment les maîtresses et les maîtres, les enseignants s'organisent avec les enfants, il y a une grande différence. Et on voit que ces enseignants font extrêmement attention à ce que les enfants puissent raconter, et là on rejoint l'approche narrative, puissent raconter leur confinement et leur déconfinement. Et en fait, ils donnent la parole. Et comme dit Franck, ils disent bien, on ne va pas rattraper quoi que ce soit, on n'est pas dans un programme, on écoute les enfants, on écoute où ils en sont, et on leur demande de raconter, et on leur demande aussi de nous dire qu'est-ce qu'ils ont réussi pendant ce confinement. C'est-à-dire qu'on va les aider à avoir une histoire préférée de ce qui s'est passé pendant ces deux mois. Et ça, c'est magnifique.
Docteur Dugravier. Un
peu plus pragmatique, pourquoi c'était indispensable de reprendre l'école? Il y a une jeune femme qui s'appelle Sonia Cazenave-Belaïd, qui est adjudante de gendarmerie, psychologue, et qui est responsable de la brigade de répression de délinquance juvénile. Et elle reçoit les enfants et les familles dans un local spécial à la gendarmerie. Fait un travail très passionnant.
Comment ? C'est des mineurs victimes d'agression.
Oui, c'est ça. Et elle m'a dit, c'était le 16 ou 17 mai, donc 5 ou 6 jours après le déconfinement, qu'ils avaient 40% d'augmentation de demandes de plaintes, en fait, et de demandes d'instruction de dossiers pour maltraitance infantile, maltraitance intrafamiliale. Donc je crois que c'était une véritable urgence sociale. Il y en aura d'autres après les urgences sociales autour de ça, comme l'urgence sanitaire est en train peut-être de prendre une place un peu différente, mais on ne pouvait pas laisser la situation comme ça.
Docteur Reynaud.
Oui, l'enfant, il a besoin de liens. Alors les liens affectifs, là, ont pris toute la place pendant le confinement, mais il a aussi besoin de liens sociaux. On ne peut pas exister seul. On a effectivement cette nécessité d'être en relation. On a subi finalement ou vécu ce confinement, mais l'enfant, il a absolument besoin de socialisation, il a besoin de, au-delà même de la performance. Hein. Nous, on a été beaucoup sollicités par des parents très dépourvus face à la charge mentale et à l'objectif des enseignants pendant le confinement. Il fallait rendre compte de ce que pouvait faire l'enfant. À chaque fois, nous, on a demandé de mettre vraiment en sourdine ses attendus scolaires, parce que ce qui compte, c'était l'harmonie dans la famille, et c'était pas forcément des objectifs qui rendaient des tensions de plus en plus aiguisées et des maltraitances ou des violences éducatives ordinaires. Humilier l'enfant, lui dire qu'il est nul et qu'il n'y arrivera pas, c'est déjà quand même une forme de maltraitance. Donc on voit comment ça arrive extrêmement vite. Et oui, l'enfant, c'était absolument nécessaire. Maintenant, derrière la question de cette personne, c'est aussi nous, on l'entend aujourd'hui beaucoup, c'est est-ce que c'est pas maltraitant de les mettre dans une école où ils peuvent pas toucher, où ils peuvent pas explorer, où finalement tout est menace. Et on voit que c'est compliqué, mais les enfants, là, ils disent j'avais tellement envie de voir mes copains que même si je peux pas les toucher, je suis tellement content de les voir. Et même si c'est pas ma maîtresse, et ben je découvre un autre maître. On a vu des enfants qui allaient très mal en fin de confinement, avec des enfants qui évoquaient même des idées suicidaires. Moi, j'en ai eu plusieurs de 5-6 ans qui ont pu dire des choses de cette nature-là. Donc oui, il était urgent qu'on puisse penser, même si c'est pas une scolarisation qui reprend comme avant, même si c'est des petits moments dans la semaine, c'est des moments qui vont faire une ouverture et une exploration. C'était indispensable. Oui.
Ce sera ma dernière question, malheureusement. Il nous reste 10 minutes, mais j'aimerais vous interroger tous les trois aussi au regard de votre ouvrage et de ce qui vient de se dire sur l'importance des rituels. Bon, évidemment, l'enfant se construit aussi. Vous le démontrez très bien, tous les trois, avec des points de repère forts. Vous en avez même dans vos cabinets, Madame Cracotte, par exemple. Je crois que voilà.
En fin de chaque consultation, effectivement, les enfants reçoivent, s'ils le souhaitent, une cracotte. Et cette habitude, c'est venu parce que quand je me suis installée jeune pédiatre, je donnais une pastille de chocolat. Et une fois, un enfant extrêmement bien éduqué a pris la pastille et sa maman lui a dit « Qu'est-ce que tu dis au docteur ?» Sous-entendu, Charles, il faut dire merci. Et le petit m'a dit une autre. Donc, et finalement, je suis passée aux cracottes. Pour les dents, c'était mieux. On n'avait pas de dentiste dans le centre, donc c'était mieux.
Alors, donc de l'importance des rituels, je disais, parce que voilà, l'enfance construit, il est beaucoup question de ça dans votre livre, quand vous évoquez les grands-parents aussi, les rituels qui marquent à vie, qui sont des gestes. Vous me confiez, avant la préparation de cette émission, que vous jouez de l'harmonica et que vous avez des harmonicas. Ça ne concerne pas votre métier de pédiatre, mais quelque part, ça doit le teinter d'une ouverture assez poétique.
Mais je vous ai dit que je ne pouvais travailler que si les choses étaient en harmonie dans ma vie, c'est-à-dire en fait de ma vie personnelle. On m'a dit, quand j'écris Steve, ça ne te gêne pas de dévoiler ta vie privée, mais je n'ai pas dévoilé ma vie privée, j'ai dévoilé des choses personnelles de ma vie. Ce n'est pas la même chose. Et ces choses personnelles de ma vie, je peux les introduire dans ma consultation parfois, à condition de pouvoir les doser et de garder la distance nécessaire, bien sûr, de façon à ce que ça puisse se partager. Partager mon malaise à certains moments, ma maladresse à certains moments, mon incompétence également, pouvoir dire à des parents qu'on ne sait pas quelque chose, qu'on ne sait pas faire. Alors les rituels, bah oui, on en a tous. Hein. L'harmonica, il n'y a pas que ça, je dessine, hein, je fais beaucoup de choses. Hein. Mais alors vous me demandiez pourquoi j'avais 7 harmonicas, je vous le disais, c'est que sur un piano, il y a 8 octaves. Et sur harmonica, il n'y a pas 8 octaves. Donc si on veut pouvoir jouer toutes les musiques, il faut avoir les différentes octaves.
Alors les rituels, il en est question dans votre livre aussi, docteur Reynaud. Finalement, quand vous parlez de cohérence, vous évoquez ce principe même qui dit bah, c'est cohérent, j'ai dit que, je ferai. Et donc c'est une association de gestes sur-rassurants, pérennes.
C'est ça, c'est parce que les parents ils disent ok, sécurité émotionnelle, super, mais ça veut dire quoi dans la réalité? Qu'est-ce que concrètement je fais? Et donc on sait que ça s'appuie sur la cohérence, la prévisibilité et la stabilité. C'est la définition un peu des rituels où on va savoir que ben à tel moment il va y avoir telle possibilité d'avoir la cracotte ou d'effectuer telle ou telle tâche commune ou en tout cas de partager des expériences communes.
Rendez-vous.
Voilà, des rendez-vous et on voit comment dans les premières périodes du confinement d'ailleurs c'est ce qui s'est tout de suite mis en place. On voit comment ces rituels, on voit les rituels ils changent, les rituels sociaux ils changent. On rentre dans une boutique. On ne sait pas, est-ce qu'on se désinfecte les mains, est-ce qu'on ne se désinfecte pas. On voit comment ça nous désorganise. On voit comment c'est essentiel, finalement, pour qu'on se structure. On a des éléments de structuration psychique. Le nom en fait partie. Hein. Ça fait aussi partie de tout ce que posent les parents comme question autour de l'autorité et du souhait aujourd'hui de souvent donner le choix à l'enfant. Mais l'enfant, il a besoin d'éléments de structuration. Le nom en fait partie et les rituels aussi. Donc, dans cette cohérence dont on parle.
Plus que rituel, je voudrais dire habitude. Je reviens, ça permettra de faire le lien à ce que disait Françoise tout à l'heure sur l'enfant qui était sujet et non pas l'objet d'une consultation. J'ai jamais embrassé les enfants dans mon cabinet. Je leur serre la main, comme à leurs parents, quoi. Même les bébés, on peut se serrer la main. Maintenant, on le fait plus parce que, en ce moment, c'est un petit peu. Vous savez, la bise, qui était un geste social très, très courant auparavant, après la première peste de Justinien, est restée interdite, quasiment interdite, non pratiquée pendant près de 400 ans. Donc les rituels, ça bouge. Mais serrer la main...
A priori, on ne va pas se serrer la main avant un bon moment.
Je ne sais pas, on va voir, ça va durer quelques temps encore.
Mais... Et est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est important de pouvoir se toucher?
Ah bah oui. Ah bah oui, de pouvoir se toucher quand même. Vous savez, un jour, dans un autobus, je mettais mon ticket dans le truc comme ça, il y avait une femme âgée, et je heurte sa main, je touche sa main au passage. Je dis, oh madame, excusez-moi. Et elle me dit, ah non monsieur, vous excusez pas. Il n'y a plus jamais personne qui me touche. Et voilà, c'est une réponse, si vous voulez, à ce que vous me dites. Oui, toucher. Et en plus de ça, dans l'examen des bébés, la façon de toucher, la continuité du geste, ne pas les lâcher, à aucun point de vue, ni physiquement, ni psychiquement, ça revient au même, ça se rejoint. Les toucher, la main grande ouverte, prolonger le geste, non pas une caresse, mais la continuité du geste est certainement, alors là, pour le coup, une mise en sécurité très importante.
Alors, si vous les touchez comme ça, vous pouvez leur serrer la main, de toute façon, puisque...
Bon, là, dans les cabinets, examen, on peut leur serrer la main, de toute façon. C'est à leurs parents qu'on ne va pas serrer la main.
Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, docteur Secato, sur l'importance du toucher?
Oui, c'est fondamental, surtout pour un très jeune enfant. Et moi, dans mon cabinet, surtout, je touche l'enfant, mais je fais surtout toucher l'enfant par son parent. Et je n'examine pratiquement plus un enfant couché sur une table d'examen. C'est l'enfant dans les bras de son parent.
Parce que
Eh bien, parce que ça redonne, aux parents sa fonction de parent. Et moi, je souhaite m'effacer en tant que médecin, pédiatre, par rapport à la fonction de parent. Je pense que ce qui est important, c'est que le parent se sente c'est sa relation à lui avec son enfant qui est importante et je ne souhaite pas qu'il puisse penser à un quelconque moment que je serai plus en capacité que lui de contenir son enfant ou d'apaiser son enfant ou je pense que c'est quelque chose que le parent doit expérimenter, toi sentir et que surtout qu'il ne puisse pas penser que je pourrais faire mieux que lui et que lui n'est pas un sachant là-dedans parce qu'en fait, celui qui connaît le mieux son enfant, c'est son parent.
François Secato, merci, c'est parfait. Alors on a bouclé la boucle puisqu'on était parti sur les compétences. Donc la plus grande compétence, alors c'est celle-ci. Ben, c'est formidable, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.
Merci.
Et donc, je rappelle que vous êtes tous en Gironde et donc tous joignables et à l'écoute des parents qui auraient besoin de vous. Bonne soirée. Au revoir.
Merci.